Hey, bienvenue de nouveau dans la chaîne podcast de Dev2Be Curious, la chaîne podcast pour les développeurs et développeuses qui sont et qui restent curieux, curieuses. On continue dans notre série autour de Git et je vais vous parler des 5 erreurs les plus communes dans l'utilisation de Git. Et bon, quand on choisit un gestionnaire de source pour son code, son projet, c'est une première belle étape pour moi. Et pourtant, il y a des réflexes qui ont la vie dure, voire des mauvais réflexes qui ont la vie dure. Et je vais vous proposer ici 5 erreurs que l'on fait ou que l'on peut faire dans l'utilisation de Git et de son écosystème. Tout d'abord, utiliser Git comme outil d'archivage. Lorsqu'on n'a pas l'habitude d'utiliser un outil de versioning et que l'on entend parler de Git ou de peut-être SVN ou Mercurial, on va commencer par l'utiliser comme un outil d'archivage, à savoir exactement comme si on le mettait sur un drive, à savoir qu'on va envoyer toutes nos modifications uniquement dans un but d'archiver, de sauvegarder sur un serveur central, par exemple GitHub ou GitLab à distance. C'est déjà une bonne étape, c'est clair. En effet, on a au moins un historique par journée. Et c'est fréquent d'ailleurs que cette archive est faite le soir, avant de partir du boulot. Pourquoi c'est pas une si bonne pratique? L'utilisation d'un gestionnaire de sources comme Git permet d'aller beaucoup plus loin. J'ai pu vous en parler, vous en reparlerez. Et pourquoi s'en priver d'abord? Et de plus, on envoie des commits gros, des gros commits. Plus les conflits rencontrés alors seront difficiles à gérer. Et plus donc vos commits sont gros, plus c'est difficile à gérer, puisqu'en fait, il y aura plein de matières, plein d'historiques à gérer, plein de risques en plus que ça diffère par rapport à ce que vos collègues ont fait. Donc, pour éviter de se recevoir un collègue qui revient et qui n'est pas tellement content de ce que vous avez fait, mieux vaut à ce moment-là plutôt privilégier des commits beaucoup plus des commits d'ailleurs et des commits beaucoup plus petits. C'est ce qu'on va faire. On va parler juste après avec la deuxième erreur qui est ne faire qu'un commit par journée, qui revient un peu à ce que j'ai dit avant, mais dans un but juste de flemme ou de peur en fait, souvent de flemme d'ailleurs. Oui, faire un commit, ça prend du temps. Oui, c'est même par moment assez redondant. On aimerait tellement que ça soit automatique. Ou bien ne le faire qu'une fois par jour. Au moins, on serait plus tranquille. Pourquoi devoir faire ces satanés commits? Pourquoi ce n'est pas une bonne pratique? Lorsqu'on fait un commit, on crée une version de notre code. C'est le point le plus important à garder et à enregistrer. À chaque version, c'est une histoire que vous racontez, que vous sauvegardez. Comme si on partait en voyage. Voulez-vous n'avoir qu'une photo par jour de ce beau voyage? Cherchez à avoir plein de beaux moments de votre journée de développement. Favorisez de nombreux commits. Allez. Troisième erreur, faire des pushs trop fréquents. À l'opposé d'un commit trop tardif, vous allez peut-être chercher à appliquer ce que vous faisiez si vous avez choisi SVN et que vous connaissiez SVN. Un commit, un push. En gros, je commit en local, je fais donc une sauvegarde, une photo de mon code, et je l'envoie directement sur le serveur, comme ça, au cas où ça plante, au moins mon code, il est là. C'est vrai que c'est une première bonne idée. Mais bon, tout d'un coup, vous avez des collègues qui vont venir vous sauter à la gorge pour tout le code non testé que vous leur envoyez. Pourquoi c'est pas une bonne pratique? C'est un art, un juste équilibre de trouver le bon rythme entre des pushs et des commits. Si vous envoyez trop souvent votre code à la communauté sans en plus tester, vous allez créer un historique, un partage commun de code qui sera un instant T instable. Entendez ici, buggé. Préférez le principe suivant, je push lorsque j'ai testé en local. Tous mes tests automatisés que j'ai en local passent au vert. Ne pas utiliser les branches locales et distantes va être le quatrième point. Ici, on va parler des branches. Vous savez que ça existe et vous savez que ça favorise les conflits. Alors ça non, qu'on ne vous y reprenne pas, vous n'utiliserez pas les branches. Ça crée trop d'instabilité selon vous. Pourquoi c'est pas une bonne pratique? Une branche, c'est comme un univers parallèle. Ça va vous sortir de situations très compliquées à gérer sans branche. Par exemple, je veux livrer en production une correction alors que j'étais en plein dev d'une évolution non testée, non finie. Ou bien je souhaite récupérer toute une partie d'un travail effectué voilà 2 semaines et le tester avant livraison ou bien l'annuler. Ou enfin, j'ai besoin de récupérer le travail d'un collègue ou d'une collègue et je veux l'isoler avant de le récupérer. Un peu difficile sans gestion de branches. Apprenez à utiliser les branches locales. Respectez la durée d'une branche locale, on va dire une journée tout au plus, en moyenne. Rebasez vos branches locales sur vos branches distantes avant push. Prochaine erreur, ne pas avoir de cadrage Git. Vous démarrez un projet Git et vous souhaitez utiliser les branches locales et distantes. Bien, bravo. Personne ne donne de ligne directrice sur l'utilisation des branches et comment on passe d'une à l'autre. Ah, pourquoi c'est pas une bonne pratique? Sans cadre, dans un projet avec plusieurs personnes, ça va vite devenir le bordel. Ça va partir dans tous les sens et ça va être très difficile à cadrer. Et du coup, sans cadre, vous savez très bien ce que ça donne rien quand il y a des bouchons. Si vous mettez un croisement, si vous ne mettez pas de feu rouge ou de rond-point, ça crée n'importe quoi. Et bien là, c'est pareil, pour la reprise de code, une personne qui arrive, pour la maintenance, ça va être complètement impossible, voire complètement... Bon, en fait, tout le monde va abandonner. Donc choisissez un bon cadre flow et si vous ne savez pas lequel choisir, partez sur un existant qui existe déjà. J'en ai parlé dans les derniers épisodes de la chaîne podcast Dev2BeCurious. Ça vous évitera l'abandon d'utilisation des branches, la perte de code non voulu, les conflits trop nombreux, du code en production non testé, non souhaité, etc. Il y a vraiment plein d'exemples là-dessus et par expérience, j'ai eu des développeurs qui ont pu, dans mes équipes, dire non, j'abandonne les branches. Et puis en plus, je ne fais pas de cadrage, c'est bon. En fait, rien n'avait été dit. Il n'y a pas de ligne directrice de cohésion d'équipe, en fait, cohésion technique. Allez, on avance, c'est le cinquième point. Et en fait, je vous propose, c'est le sixième point. Les pull et merge requests trop grosses. En fait, ici, vous avez bien respecté le cadrage Git, c'est très bien. Vous avez par exemple choisi GitLab ou GitHub Flow, super. Ou peut-être le Forkflow. Vous savez que donc l'une des pièces maîtresses de ce type de cadrage, c'est la PRMR. Vous savez, le pull merge request. Alors vous vous retrouvez à en créer des trop volumineuses, à savoir que vous envoyez un ensemble de push contenant un ensemble de commits. Et au bout d'un moment, vous avez peut-être 50 commits représentés. Alors déjà, la question, c'est peut-être de squasher tout ça. Si ça ne vous parle pas squash, je vous invite à aller voir ce que c'est. Et deuxièmement, c'est peut-être faire un principe qui est assez connu. Hein. D'éviter de créer des trop volumineuses parce qu'elles contiennent trop de commits. Donc. Et pourquoi c'est pas une bonne pratique, pardon? Comme le vieux sage dit, mieux vaut plusieurs petites qu'une très grosse. Je sais pas si vous connaissez cet adage. Cet adage est présent partout en informatique. C'est le principe I de solide, ségrégation des interfaces. C'est en gros, mieux avoir plein de petites interfaces qu'une très grosse. Mais là, c'est la même chose. Vous allez ainsi pouvoir très rapidement avoir le retour de la communauté sur votre code à pousser. Les conflits seront courts et plus simples à résoudre. Et en plus, vous allez favoriser la création d'une histoire de votre projet. Et moi, j'aime bien dire que Git, c'est un peu la création d'un livre de votre projet. Il y a des essais, des erreurs, et petit à petit on construit, mais en fait le livre de votre projet. Et donc l'historique. Saviez-vous par exemple que vous pouvez créer une PRMR juste pour échanger avec vos collègues? Eh oui, elle ne sert pas qu'à fusionner son code dans une autre branche ou un autre repo. Est-ce que vous avez déjà mis en place ces erreurs? Est-ce que vous les commettez ces erreurs? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Ce sera avec plaisir d'échanger. Alors, il y a l'article qui est présent en lien avec ce podcast, cet épisode, sur le blog evenbossono.fr/blog. Je vous invite à aller laisser un commentaire là-dessus. À très vite pour partager d'autres astuces, d'autres points autour de Git. Et on va aller étendre un peu toutes ces fonctionnalités. Par la suite, on va quitter un peu le monde Git pour parler un peu cohésion technique. Est-ce qu'on peut ajouter en plus de cohésion technique? Je vous dis à très vite sur la chaîne podcast de Dev2BeCurious. Et d'ici là, guittez bien. Ciao.